Hey, bon matin, nouvelle vie, comment ça va? Yes, on peut applaudir. Jour de dimanche, c'est jour de célébration, jour de fête. Jacques, là, tu m'as mis la pression, là. Quelle là, il a mis la barre haute. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour continuer cette thématique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois en un. Qui aime cette thématique à date? Moi, je sais que je suis béni, vraiment. Ça me fait découvrir des nouvelles facettes de qui Dieu est. Puis moi, je suis béni. Je suis béni. Puis aujourd'hui, en commençant mon message, j'aimerais commencer mon message par une anecdote, une histoire que j'ai vue dans les journaux il y a quelques années et qui m'a marqué, qui m'est restée en tête depuis. C'est un fait divers, en fait, qui s'est passé en 2014 en France. Et c'est l'histoire d'un commissaire-priseur qui faisait un inventaire dans une maison pour évaluer les biens, pour pouvoir les vendre aux enchères. Et alors qu'ils faisaient cet inventaire-là, ils ont trouvé des pièces médiévales, des pièces datant de l'époque médiévale, de l'époque aussi de Louis XIV, des pièces d'une grande valeur avec une grande histoire. Et puis alors qu'ils arrivent, qui font cette vente aux enchères, tenez-vous bien, la vente aux enchères a rapporté plus de 300 000 euros, ce qui fait un demi-million de dollars. Qui serait content d'avoir un demi-million de dollars dans son compte? Honnêtement, ça se prend bien. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'était que ce médaillé-là, ils l'ont trouvé derrière un rideau. La personne qui a trouvé ces pièces-là datant de l'époque médiévale a dit ceci: le médaillé était caché derrière un rideau. La famille connaissait son existence sans réellement savoir ce que c'était, si ce n'est que la collection était arrivée ici après plusieurs héritages. C'était extraordinaire, dit-il. Les pièces d'or étaient découvertes d'un voile de poussière. Vous réalisez, ils avaient un trésor d'un demi-million de dollars chez eux et ils n'en avaient aucune idée. Ils l'ont juste tassé dans le coin, ils s'en ont pas occupé pendant des années et des années, il y avait de la poussière dessus. C'est juste fou. Puis ce qui est incroyable, ce qui me fait halluciner dans cette histoire, c'est que peut-être pendant des années, ils ont dû se serrer la ceinture croyant qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour partir en voyage alors qu'ils étaient littéralement assis sur un trésor d'un demi-million de dollars. Et si je vous disais que ces personnes qui passent à côté d'un trésor incroyable, ça pouvait être vous, ça pouvait être moi. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Jésus, la source de la vie abondante. Jésus a fait beaucoup de déclarations fortes au cours de sa vie, et la plupart d'entre elles sont contenues dans la Bible. Et une de ces déclarations fortes se trouve en Jean 10, verset 10, et dit la chose suivante: moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. La définition de l'abondance, c'est grande quantité, quantité supérieure aux besoins. Jésus est venu sur terre, pas pour nous offrir de survivre, de passer un jour après l'autre, mais de nous offrir la vie en abondance, une vie pleine, une vie riche. Et cette vie abondante que Jésus est venu nous offrir, elle est beaucoup plus intérieure qu'extérieure. La parole de Dieu nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le privilège de manifester les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est une des grâces, un des cadeaux, un des trésors incroyables qu'on a. C'est de pouvoir être rempli d'amour pour les gens autour de nous. D'être rempli d'amour pour les gens qui nous sont chers, mais aussi envers les gens qui nous sont désagréables. Okay? On connaît tous des personnes dans notre entourage qui sont plus faciles à aimer et d'autres qui sont un peu plus difficiles à aimer. Dieu est venu nous donner de l'amour pour les personnes sur l'autoroute qui nous coupent la route sans flasheur. Il est venu nous donner de l'amour pour ces personnes-là. Jésus est venu nous donner de l'amour pour notre voisin qui nous réveille à 6 heures du matin quand il tond son gazon. Dieu est venu nous donner de l'amour pour lui. Mais Dieu est venu aussi nous donner une patience, un calme dans les situations où normalement on s'irriterait. Dieu est venu nous donner de la patience lorsque ça fait une heure qu'on est au téléphone avec notre compagnie d'Internet parce que le Wi-Fi ne fonctionne plus chez nous. Il nous donne la capacité de garder notre calme, de continuer à être patient. Mais la vie abondante que Dieu est venu nous donner, les fruits de l'esprit, c'est aussi de garder une paix et une joie en toutes circonstances. Pas parce qu'il ne nous arrive pas de problème, pas parce qu'on est dans le déni des difficultés de la vie, non. Parce qu'on sait qu'on appartient à un Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien. Et que même à travers les pires épreuves, il est capable de faire sortir du positif de notre vie. Dieu est là pour nous donner la vie en abondance, une vie remplie des fruits de l'esprit à l'intérieur. Cette vie abondante-là aussi, elle n'est pas tournée vers nous, elle est tournée également vers les autres, vers Dieu. C'est une vie où Dieu nous utilise pour porter du fruit. Dieu nous utilise pour encourager, pour influencer, pour inspirer, pour amener des gens à lui. Ça, c'est ce que Dieu est venu nous amener. Dieu est venu nous amener, Jésus est venu nous donner plus de paix qu'on a besoin, plus d'amour qu'on a besoin, plus de joie qu'on a besoin. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que ça se pourrait que sa joie surnaturelle en toutes circonstances, sa paix surnaturelle, son amour qui coule envers les personnes qui nous sont agréables, qui nous sont désagréables, tout ça, est-ce que ça se pourrait que tous ces fruits de l'esprit-là, on les expérimente pas tant que ça des fois? Est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que ça pourrait arriver qu'en tant que chrétien, on puisse passer à côté de la vie abondante que Jésus est venu nous offrir? Jésus nous dit que oui. Et non seulement il nous dit que oui, mais en plus il nous explique comment c'est possible. En Jean 15, 1, il arrive à un moment donné et il donne une déclaration qui est encore forte. Il dit ceci, « C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. » Il y a une photo d'une vigne qui va apparaître à l'écran. Il y a une autre version qui dit que Jésus, c'est le cep et que les disciples et que nous sommes les sarments, les branches attachées au cep. Et puis en 2021, aujourd'hui, s'il y a une personne qui vient nous voir et qui nous dit « Je suis la vigne, mon père c'est le vigneron », on risque de le regarder un peu bizarrement. Mais pour les juifs de l'époque, pour les personnes de l'époque, Dieu s'adresse à des juifs du 1er siècle. Et pour eux, l'image d'une vigne était particulièrement frappante. Parce que souvent dans l'Ancien Testament, l'image d'une vigne symbolisait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qui je le rappelle, était le peuple choisi par Dieu pour faire une alliance avec lui afin de se révéler à sa création, de se révéler à l'humanité à travers ce peuple-là. Et il a bâti une alliance avec ce peuple-là basée sur des commandements. Et alors que Israël gardait les commandements de Dieu, il prospérait en tant que nation. Et l'image d'une vigne, c'est positif à la base. Ça produit du fruit, du raisin, c'est positif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que Israël est comparé à une vigne dans l'Ancien Testament, c'est toujours négatif. C'est toujours pour dire qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose, le fruit que vous êtes censé produire, vous ne le produisez pas. À un moment donné, le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient souvent un rôle de reprendre le peuple d'Israël, de dire, vous êtes écartés de voie des dieux, là c'est le moment de revenir. À un moment donné, le prophète Ésaïe dit cela au peuple d'Israël. J'ai tout fait pour ma vigne, je ne pouvais rien faire de plus. J'attendais du bon raisin, mais elle ne m'a donné que du raisin acide. Pourquoi donc ? La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Oui, la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple de Juda. Juda qui est une des tribus d'Israël. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit, mais partout c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice, mais partout ce sont les cris des gens sans défense. Il leur dit, vous le peuple d'Israël qui êtes censé être un exemple pour les autres nations autour de vous, par votre amour, par votre compassion, par votre sens de la justice, vous êtes comme une vigne qui produit pas de fruits, ou alors du mauvais fruit. À chaque fois que Israël est comparé à une vigne dans l'Ancien Testament, c'est toujours pour dire qu'il manque quelque chose. Et là, Jésus débarque. Jésus débarque et dit, je suis la réelle, l'authentique, la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Par cette déclaration-là, Jésus dit deux choses. Premièrement, il dit, je suis venu enlever tout intermédiaire. Le chemin par lequel il faut passer pour avoir une vie fructueuse, ce n'est pas Israël, c'est moi. Parce qu'à l'époque, si une personne voulait aller voir les autorités religieuses pour dire hey, comment je fais pour être en relation avec Dieu, comment je fais pour avoir accès à cette vie-là, les autorités religieuses leur auraient répondu bah, il faut que tu mettes en pratique les coutumes, il faut que tu respectes les jours saints, il faut que tu pratiques les coutumes, les rites du peuple d'Israël. En gros, il faut que tu fasses partie du peuple d'Israël. Mais là, Jésus dit non, tu n'as pas besoin de pratiquer des coutumes, des rites, tu as juste besoin de me suivre pour avoir accès à cette vie-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu offrir un accès direct à Dieu. Qui que tu sois dans ce lieu, peu importe ton âge, ton genre, ton compte en banque, tu as accès à la vie abondante que Jésus a pour toi aujourd'hui, si tu le souhaites. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais lorsque Jésus dit qu'il est venu, qu'il est la vraie vigne, il dit non seulement qu'il est venu enlever tout intermédiaire, mais aussi et surtout, il est en train de dire que c'est moi qui vais m'occuper de faire produire du bon fruit à mon peuple. Et ce fruit-là, il est conditionnel à une chose, être attaché à lui, être connecté à lui. Jésus poursuit son discours en disant cela. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, sans moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit à ses disciples, de la même manière qu'une branche qui n'est pas connectée au tronc ne peut pas produire de fruits, de la même manière, vous, si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pouvez pas produire de fruits. Vous ne pouvez pas avoir accès à cette vie-là que j'ai pour vous. Et lorsqu'on comprend le contexte dans lequel Jésus dit ça, on comprend et on réalise encore plus à quel point cette parole-là s'applique à nous aujourd'hui, à la Prairie. Parce que le moment où Jésus fait cette déclaration-là, c'est quelques heures avant son arrestation et sa crucifixion. Il vient de passer 3 ans avec les disciples. Les disciples l'ont vu, ont tout quitté pour servir Jésus. Ils l'ont entendu faire des messages en public, en privé. Vous imaginez là, ton animateur de groupe Nouvelle Vie, c'est Jésus. Tu peux lui demander n'importe quoi, tu lui poses des questions, il répond à des questions. Ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils l'ont vu faire des choses incroyables. Ils ont vu Jésus agir, Dieu agir comme peu de personnes au monde. Et pourtant, Jésus leur dit, demeurez en moi, sinon vous n'allez pas pouvoir porter du fruit. Ce que ça nous dit, c'est qu'on peut avoir vu Dieu agir comme peu de personnes au monde. On peut avoir entendu des centaines de prédications. On peut croire en Jésus, on peut même servir Dieu. Les disciples avaient tout quitté pour lui. On peut servir Dieu et ne plus être réellement connecté à lui. Et Jésus est clair concernant les conséquences de ne pas demeurer en lui. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas passer par les épreuves de la vie et quand même avoir ma paix, ma joie. Sans moi, vous ne pouvez pas manifester la joie que je vous appelle à manifester, l'amour que je vous appelle à manifester. Sans moi, vous ne pouvez pas être les parents que je vous appelle à être, l'employé, l'employeur que je vous appelle à être. Sans moi, tu ne peux pas être l'époux, tu ne peux pas être l'épouse que je t'appelle à être. Sans moi, tu n'auras jamais le mariage que j'ai en réserve pour toi. Sans moi, tu ne peux rien faire, tu as besoin d'être connecté à moi. Maintenant, il y a une question qui est légitime. Si c'est si important d'être intimement connecté à Jésus pour porter du fruit, comment ? Comment être connecté à Jésus ? Premièrement, en étant nourri. Comme les sarments sont nourris par le cep, nous avons besoin d'être nourris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis les dernières années, la nutrition est devenue un enjeu majeur. Il y a des dizaines et des dizaines de documentaires qui sortent chaque année. Il y a des émissions de cuisine, tout ça. Puis bien que je sois loin d'être un expert en cuisine, en fait, ceux qui me connaissent vraiment sachent que je suis vraiment nul en cuisine. Okay, vous avez le pire cuisinier du Québec qui est devant vous en ce moment. Et je suis loin d'être un exemple en alimentation. Okay, je mange beaucoup trop de fast-food, pas assez de légumes, bref. Bien que je ne sois pas un expert en cuisine, ça m'arrive quand même de regarder des émissions. Et parmi toutes ces émissions-là, il y a bien sûr un souper presque parfait. Est-ce qu'il y a des fans, un peu des gens qui connaissent un peu un souper presque parfait ? Ok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très très simple. C'est des participants qui s'invitent à tour de rôle manger chez eux. Puis le but, bien évidemment, c'est de faire le meilleur repas. Il faut que ça soit original, il faut que ça soit bon, mais il faut aussi qu'il y ait de l'ambiance. Okay. Et puis à la fin de chaque soirée, les gens reçoivent une note. Ils reçoivent une note et à la fin de la semaine, la personne qui a accumulé les meilleures notes gagne une somme d'argent. Et généralement, lorsqu'on finit de regarder un souper presque parfait, il y a automatiquement 2 choses qui se passent. Premièrement, on a faim. Vrai ou pas ? On a faim. On les voit cuisiner des recettes qui ont l'air tous plus bonnes les unes que les autres. C'est incroyable. Ça donne faim. Et la deuxième chose qui se passe à chaque fois, c'est que ça nous donne envie de recréer les recettes qu'on a vues dans l'émission. Parce qu'en plus, il nous enseigne, il nous donne les ingrédients, les quantités, il nous donne les outils, les connaissances nécessaires pour pouvoir recréer les plats chez nous. Maintenant, est-ce que je recrée les plats chez moi ? Pas du tout. Mais ça, c'est une autre question. La réalité, c'est que, pourquoi je vous dis ça ? C'est que les réunions du dimanche matin, lorsqu'on est là tous ensemble, c'est beaucoup plus un cours de cuisine qu'un restaurant où on va pour manger pour la semaine. Des fois, on peut voir un peu comme ça l'Église. Puis, on est reconnaissant qu'on se rassemble à l'Église. La pandémie nous a montré qu'on a vraiment besoin d'être rassemblés les uns avec les autres. C'est une bénédiction, c'est indispensable, c'est biblique, ça fait partie de l'expérience chrétienne, on a besoin d'être ensemble. Mais parfois, on peut avoir la conception de l'Église que je vais à l'Église, puis je vais faire mon plein de louanges. Je vais faire mon plein de louanges pour la semaine, mon plein de la parole de Dieu. Et puis après, je vis ma semaine. Et puis le vendredi, le samedi, quand mes réserves spirituelles sont au plus bas, ben, je retourne à l'église. Je retourne à l'église, puis là, je vais faire mon plein de louanges, mon plein de prédications, et puis là, je suis rassasié, je vais de dimanche en dimanche en dimanche. Alors que c'est censé faire le même effet qu'un cours de cuisine. On est censé venir dans la présence de Dieu et quitter ce lieu en disant « j'ai encore plus faim et soif de la présence de Dieu que jamais. Ce que j'ai vécu dans la louange, ce que j'ai vécu dans la présence de Dieu, j'ai envie de le recréer chez moi. Alors que je fais ma vaisselle, j'ai envie de mettre de la louange. Alors que je vais au travail, j'ai envie de mettre de la louange. Alors que je me lève le matin, je veux consacrer mes 10-15 premières minutes à juste passer du temps dans l'adoration. Ce qui a été enseigné, je veux non seulement le mettre en pratique, je veux non seulement le réfléchir, le méditer, mais je veux le vivre. Je veux le vivre, je veux le mettre en pratique à tous les jours. Le texte qui a été prêché, je veux le lire. Parce que comme dit 1 Jean 2, c'est cette parole-là qui donne la vie. Le sentiment qu'on a à avoir, l'Église, c'est hey, « on est là pour être équipé ». Paul dira aux Éphésiens, il dira la chose suivante, il dit « Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des enseignants, et tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service, et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. » Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des enseignants, dans le but d'équiper les croyants, pas d'être leur seule source de nourriture, mais d'équiper les croyants afin qu'eux-mêmes puissent s'emparer de la vie abondante que Dieu a pour eux. Est-ce que je peux entendre un amen ? Parfois, on a la mauvaise conception. Si Jésus est venu enlever tout intermédiaire avec Dieu, c'est parce qu'il veut avoir une relation vivante avec chacun d'entre nous. Une relation vivante. Parfois, moi comme ça a été dit, je travaille avec des ados, puis souvent, je leur dis, tu sais, la foi de tes parents, c'est bien, c'est super que tes parents aient la foi. Mais la foi de tes parents ne suffit pas. Jésus veut avoir une relation avec toi. Et parfois même, en tant que chrétien mature, des fois on peut tomber dans le piège de se reposer sur la foi du pasteur ou la foi de notre mari, de notre épouse. Jésus veut une relation vivante avec chacun d'entre nous à tous les jours de la semaine. Ça, c'est la réalité. Parfois, on passe à côté de la vie abondante que Dieu a pour nous parce qu'on est en sous-alimentation spirituelle. Mais parfois aussi, on peut manquer la vie abondante que Dieu a pour nous parce qu'on est en malnutrition spirituel. Il y a quelques années, il y a une personne qui a fait une expérience assez folle pour prouver que, justement, pour trouver un peu les raisons de l'obésité aux États-Unis. Puis cette personne-là a décidé de manger au fast-food pendant tous les jours, pendant un mois, tous ses repas. Okay, je vous ai dit que j'ai une alimentation pas très saine, pas très équilibrée, même moi je ne me rendrai pas là. Okay. Les règles de son expérience étaient super simples. Le documentaire s'appelait Super Size Me, je ne sais pas si vous connaissez. Les règles de son expérience étaient les suivantes. Il devait manger ses 3 repas quotidiens dans un fast-food. Il devait manger que les aliments figurant sur le menu et il devait prendre l'option grand format à chaque fois qu'on l'a lui proposé. Puis comme vous pouvez vous en douter, au bout de 21 jours, il a commencé à ressentir des douleurs au thorax, qui est un des symptômes de l'infarctus. Les médecins lui ont fortement recommandé d'arrêter, mais il a quand même décidé d'aller au bout malgré les avertissements. Il a pris 20 livres en 30 jours. Et là, tout le monde dit « aïe aïe ». 20 livres en 30 jours, ça fait mal. Il a endommagé son foie, il a endommagé son cholestérol, il a fait monter son cholestérol de 0,65 grammes par litre de sang. Il a mis plus de 14 mois à retrouver son état normal. Puis là, notre premier réflexe, c'est de dire « bah, c'est normal ». Je veux dire, si tu manges tous les jours au McDo ou dans les fast-food, à quoi tu t'attendais? C'était sûr que tu remplis ton corps de choses toxiques, c'est sûr que tu ne vas pas être santé. Mais est-ce que ça se pourrait que nous, ça soit nous de ça des fois parfois? Qu'on ne remplisse pas notre corps de choses toxiques, mais notre âme de choses toxiques, qui viennent polluer notre cœur, nos pensées, notre âme. Des fois que ce soit des séries, des films, des pages sur des médias sociaux, des conversations qu'on entretient, qui font juste nourrir notre âme à chaque semaine et qui sont toxiques. Est-ce que ça se pourrait qu'une bonne partie de nos mauvaises pensées d'orgueil, de comparaison, de jalousie, de mécontentement, de matérialisme, ça vienne en grande partie des choses qu'on regarde et des choses qu'on écoute, de comment on nourrit notre âme? Proverbe 4, 23 dit la chose suivante. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si les sources de la vie viennent de notre cœur, viennent de notre âme, si la vie abondante vient de l'œuvre que Dieu fait à l'intérieur de notre cœur, on doit être extrêmement vigilant à ce qu'on laisse entrer. Extrêmement vigilant. Parce que parfois, on peut juste passer à côté de ce que Dieu a pour nous simplement parce qu'on est rempli de pensées qui sont juste à l'opposé du cœur de Dieu. L'apôtre Paul dira la chose suivante. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul fait un lien direct avec comment tu nourris tes pensées avec l'expérimentation que tu as de la présence de Dieu à tous les jours. Comment tu nourris tes pensées, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les conversations que tu entretiens, les pensées que tu alimentes, a une incidence directe sur la présence de Dieu que tu expérimentes au quotidien. Et c'est pour ça qu'on doit choisir. De quoi nourrissez-vous vos pensées en ce moment? Et nourrir ces pensées de la présence de Dieu, de Jésus, ce n'est pas simplement lire la Bible ou aller à l'église. C'est beaucoup plus que ça. C'est littéralement tirer sa force, tirer son énergie de Jésus. C'est faire de Jésus sa source de joie, de paix, d'amour. Parce que toutes les autres sources sont illimitées. Tirer sa joie de Jésus, c'est dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas en ce moment le travail que j'aimerais, je n'ai peut-être pas le salaire que j'aimerais, je n'ai peut-être pas la maison que j'aimerais, mais Seigneur, j'ai choisi de regarder à ce que j'ai. Je choisis de regarder à ce que j'ai, de réaliser que je suis pardonné et je suis vivant pour l'éternité. Et je choisis de mettre ma joie en toi parce que je sais que ultimement, seul toi peux me combler. Choisir de mettre sa paix, tirer sa paix de Jésus, c'est dire, Seigneur, en ce moment, je passe par une épreuve, puis je n'ai aucune idée de quoi sera fait demain. Mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance parce que tu es le créateur de l'univers. Tu as tout sous ton contrôle. Et tu m'as promis en Romains 8, 28 que tout concourt à mon bien. Alors que je m'accroche à toi, des pires épreuves, tu es capable de faire sortir du positif, tu es capable de faire changer mon caractère et de l'amener de plus en plus à la ressemblance de Christ. Je sais que tu as tout en ton contrôle. Je veux tirer ma paix de toi. Tirer son amour de Jésus, comment on fait ça? L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se fake. Tirer son amour de Jésus, c'est face à une personne qui est désagréable autour de toi, c'est dire, Seigneur, je ne veux pas la voir comme une personne qui est désagréable, je veux le voir comme une personne que tu as tellement aimée que tu es venu mourir à la croix pour elle. Tu l'as tellement aimée que tu as tout donné pour elle. Et même si aujourd'hui, elle se comporte comme mon ennemi, je veux réaliser que moi, un jour, je me suis comporté comme ton ennemi. Et tu m'as traité avec grâce, avec amour et avec compassion. Puis cet amour-là que j'ai reçu, je veux le transmettre. On a besoin d'être connecté à Jésus, on a besoin d'être nourri par sa présence. Alors qu'on s'approche de lui, sa joie devient notre joie, sa paix devient notre paix, son amour devient notre amour. Comment demeurer en Dieu? Premièrement, en étant nourri. Deuxièmement, comment demeurer en Dieu? Puis c'est mon dernier point aujourd'hui, en obéissant. Jésus continue son discours et dit la chose suivante. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Bon, est-ce qu'il existe un mot moins populaire que obéir? Souvent, on a l'impression qu'il faut choisir. Il faut choisir entre une vie d'obéissance et une vie de joie, une vie de liberté, une vie où on profite vraiment de la vie. Et quand on pense comme ça, on oublie qui nous demande d'obéir. On oublie qui nous demande de garder ses commandements. On oublie que la personne qui nous demande d'obéir, c'est un bon vigneron. C'est un bon vigneron qui veut le meilleur pour nous, qui nous donne tous les commandements qu'il nous donne, toutes les choses qu'il nous appelle à arrêter de faire, qui nous appelle à commencer à faire, il le fait pour notre bien. C'est motivé par son amour, par sa bienveillance. Et Dieu est tellement un Dieu de grâce, il n'a pas besoin de se justifier. Je veux dire, c'est le créateur de l'univers, il a tout créé, il est venu mourir à la croix pour nous. Sa bienveillance, elle n'est plus à prouver. Mais comme s'il avait quelque chose à prouver, il dit à ses disciples, si je vous demande de garder mes commandements, de rester attaché à moi là, c'est pour cette raison-là. Il leur rappelle, il leur dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit toutes ces choses-là, là, de garder mes commandements, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. La joie que nous allons expérimenter dans ce monde est proportionnelle à notre obéissance à Dieu. Elle est proportionnelle. Et peut-être que vous êtes là aujourd'hui et vous vous dites, là tu parles d'obéissance, tu parles de fruits de l'esprit, j'ai l'impression d'être tellement loin de tout ça. J'ai l'impression d'être tellement loin de tout ça, j'aimerais te rappeler une fois de plus que Dieu est un bon vigneron. Alors que je me préparais pour ce message-là, j'ai essayé de comprendre un peu plus comment fonctionne une vigne, parce que je n'ai pas du tout la main verte, okay, j'ai jamais fait d'agriculture ou quoi que ce soit de ma vie, j'ai essayé de comprendre puis de creuser un peu plus comment ça marche. Et puis j'ai été surpris de découvrir que il y a certaines branches qui ont une tendance naturelle à tomber, à traîner dans la boue, dans la poussière. Et ces branches-là, vu qu'elles sont remplies de poussière, de boue, elles ne peuvent pas produire de fruits. Et puis moi, la pensée que j'avais, c'était toutes ces branches-là qui traînent par terre, qui ne produisent pas de fruits, le vigneron, il va juste les couper, il va les tasser de côté, puis il va se concentrer sur les branches qui portent du fruit. Mais si tu dis ça à un vigneron, il va dire non, c'est qu'il y a des étapes. Là, les sarments, ça a trop de valeur, ça a beaucoup trop de valeur pour juste les couper d'un coup. Ce qu'on fait, c'est qu'on se baisse, on les relève, on les nettoie, on enlève la boue, on enlève la poussière, on enlève tout ce qui est mauvais, on la relève, on l'attache à une branche pour que ça soit plus exposé au soleil et qu'il puisse avoir à nouveau la capacité de produire du fruit. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. C'est exactement ce que Jésus fait avec nous et il nous le dit. Il dit, tout sarment qui est en moi, qui m'appartient, qui est mon enfant et qui ne porte pas de fruits, il le relève. Le verbe qu'il utilise, c'est aïro. En grec, ça veut dire ramasser, relevé, soulevé. J'aimerais vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez l'impression d'être à terre en ce moment. Que peut-être vous dites, avec la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris des mauvaises habitudes, mon cœur s'est éloigné de Dieu. J'ai l'impression que je suis à des millions de kilomètres de son cœur. J'ai l'impression d'être trop loin pour qu'il fasse quoi que ce soit avec ma vie. J'aimerais vous rappeler que Dieu est un bon vigneron et que vous ne pouvez pas aller trop loin. Vous ne pouvez pas aller trop loin, vous ne pouvez jamais aller trop bas pour qu'il vienne vers vous et qu'il vous relève. Sa main sera toujours là pour vous relever. Toujours là pour vous relever, pour vous nettoyer, pour vous reconnecter à lui et vous donner la capacité de produire du fruit à nouveau. Vous pouvez revenir à Dieu aujourd'hui. Parfois, il y a des choses qui découragent notre repentance. C'est que parfois, on peut se dire, ça fait tellement de temps que je suis loin du cœur de Dieu. Ça fait tellement de temps que je ne suis pas connecté à Dieu. Et pour retrouver ma connexion avec Dieu, là, il va en falloir de la prière. Il va en falloir des semaines sans péché, des semaines de jeûne en prière pour pouvoir recommencer à être vraiment connecté à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que la grâce de Dieu marche. Alors qu'on s'éloigne, Dieu nous poursuit. Et peu importe à quel point tu penses être loin aujourd'hui, on est toujours à un demi-tour de pouvoir expérimenter à nouveau la présence de Dieu. Alléluia. Mais peut-être que vous êtes là aujourd'hui et vous portez du fruit. Vous, ça va bien en ce moment, vous êtes connecté avec Dieu, vous manifestez les fruits de l'esprit, vous manifestez la joie, l'amour. J'aimerais vous dire que Dieu a encore plus pour vous. Dieu a encore plus pour vous. Parce qu'il continue, il dit ceci, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les relève. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Encore une fois, j'ai fait mes recherches et la branche, c'est dans sa nature de produire des feuilles. Elle produit des feuilles. Puis c'est beau, ça donne des belles photos, tout ça. Mais ce qui fait que des fois, il y a tellement de feuilles qui sont produites que ça étouffe le fruit qui était censé être produit. Ce qui fait que le vigneron, souvent ce qu'il fait, c'est qu'il va couper les feuilles qui prennent trop de place et qui empêchent le fruit de se développer. Il les coupe. C'est un processus qui peut être douloureux, mais qui est nécessaire. Émonder, ça veut dire couper, tailler, nettoyer, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire sur la branche et qui l'empêche de produire plus de fruits. J'aimerais vous dire que des fois, même si tu portes du fruit en ce moment, Dieu a encore plus pour toi, il y a des choses qu'il veut enlever dans nos vies. Il y a des choses qui sont là, qui prennent de la place et qui ne sont pas nécessaires. Dieu veut enlever des choses dans notre vie. Mais ma dernière question pour vous, c'est, est-ce que vous permettez encore à Dieu de vous émonder? Est-ce que vous permettez encore à Dieu de dire, j'aimerais ôter ça de ta vie? J'aimerais ce mode de pensée-là, ce raisonnement, j'aimerais l'ôter. Est-ce que vous permettez encore, parfois, ce n'est même pas des péchés, parfois c'est juste un trop-plein d'activités. Un trop-plein d'activités où on est tellement occupé partout qu'on n'a même plus le temps de connecter avec Dieu. Dieu est le maître du temps. Si on n'a pas assez de temps pour connecter avec lui, c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait qu'on n'est pas censé faire. Est-ce qu'on permet encore à Dieu de venir nous émonder? Le pasteur Timothy Keller, qui est un pasteur et auteur que j'apprécie beaucoup, a dit une phrase il y a quelques années qui m'a juste renversé, qui m'a gardé à bien des égards. Il a dit ceci, « C'est seulement lorsque ton Dieu t'outrage et te dérange que tu sais que tu adores le vrai Dieu et non un produit de ton imagination. » Un des signes qu'on est vraiment connecté à Dieu, qu'on demeure vraiment dans son amour, c'est qu'il vient nous déranger. Il vient nous montrer des choses qu'il veut nous enlever. Il vient montrer des choses qu'il veut faire différemment, des patterns qu'il veut ôter de notre vie. Est-ce que vous permettez encore à Dieu de vous déranger? Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Parce que parfois, il y a des choses qui nous étouffent. Quelles sont les choses qui, en ce moment, dans votre vie, étouffent le fruit que Dieu veut produire? Dans quelques instants, l'équipe de louanges va nous conduire dans un chant qui s'appelle « Consécration ». Puis je vous invite vraiment à chanter ce chant-là avec vraiment cette pensée, comme une prière, de dire d'arriver comme une page blanche devant Dieu et de dire « Seigneur, montre-moi. Seigneur, révèle-moi. Montre-moi ce que j'ai besoin d'enlever. Montre-moi ce que tu veux enlever. Montre-moi ce que tu veux que je fasse différemment. Montre-moi, viens me déranger. Mais pas me déranger juste pour me déranger. Me déranger pour que je puisse produire encore plus de fruits. Pour que je puisse avoir encore plus la vie en abondance. Qu'on puisse se présenter devant Dieu comme une page blanche. Puis alors que les musiciens vont s'approcher, je vais vous inviter à vous lever. À vous lever, puis qu'on puisse commencer à être dans une attitude de prière.